Joe Latard, des fiches Monsieur Cinéma. En fait, c'est des fiches qui existent depuis 46 ans et qui, au rythme de 36 par mois, vulgarisent le cinéma avec un œil historien. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de films anciens, de fiches de films anciens, un tiers des films qui sortent, et tout le reste, c'est brassage technicien réalisateur.
Moi, c'est Irène Finkel pour Radio Colabib, c'est la radio juive à tous.
Ok.
Louis-Marie Soler, Radio Présence. Pardon.
Romain, je représente la radio CFM Radio et j'anime une émission hebdomadaire avec des amis. On parle de cinéma à travers l'actualité, des débats et des jeux.
Ok.
Bonjour, enchantée. Je ne suis pas journaliste, je suis chargée de communication pour le Festival International du Film Environnement. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'être présente ici. Je suis très curieuse aussi d'écouter ces échanges. Voilà, merci en tout cas.
Ok. Plaisir.
La première question, évidemment, c'est quelle est l'origine de ce projet ? Parce que vous, Félix, vous avez habitué à d'autres façons de raconter des histoires, d'autres histoires d'ailleurs, et celle-ci, par rapport aux autres, tranche, surtout d'une façon, elle est plus classique, même si dans le montage, on peut passer d'une époque à une autre, mais sinon, on suit la chronologie, les personnages. Ouais. Pietro et Bruno, on les voit petits, puis ados, puis adultes, donc la chronologie temporelle est la même.
Ouais.
Mais alors pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire et d'adapter ce livre, puisque c'est un livre à succès?
Pour moi, quand j'ai lu le livre, au fait, c'était très clair que c'était une histoire pour moi. Il y avait beaucoup de thèmes qui me parlaient beaucoup, j'étais énormément touché. Plein de petits détails aussi qui étaient justes, qui correspondent à des choses que j'ai vécues ou à d'autres ou des thèmes que j'ai abordés dans d'autres films. Donc pour moi, en fait, c'était très très clair. D'ailleurs, le bouquin était conseillé par différents gens à moi, et quand je l'ai lu, j'ai compris pourquoi. Pourquoi ? Mais j'ai mis du temps aussi, j'ai pas tout de suite.
C'est parce que ça questionne quelque chose qui vous. C'est des préoccupations qu'on a déjà vues dans vos autres films, même si je parlais de différence de ton.
Ouais.
Mais au niveau de ce qu'on retrouve dans ce film, on l'a retrouvé dans les autres. C'est la relation au père en particulier.
Oui, père-fils, l'amitié aussi, la perte ou la mort. Et donc, le truc très personnel, c'est. Moi, la montagne, la haute montagne, je ne la connaissais pas très bien, mais je suis toujours allé dans un village en France, en Auvergne, où j'ai vécu pendant une année. Mais mes parents sont toujours faits comme ça, et moi aussi avec eux. Et j'ai mon propre Bruno là-bas, en fait. donc, c'était très, très personnel, pourquoi ça m'a beaucoup touché. Et puis, la résolution, la fin du livre, l'idée de devoir se rendre. Ouais. À la vie, à la mort, à la nature, à tout, ça m'avait très fortement touché. Et voilà. L'idée de faire plus chronologiquement, ça c'était dès le début que j'avais pas envie de jouer avec le temps, comme j'avais fait dans d'autres films. Ça aurait pu marcher, mais ça me semblait trop facile et pas juste pour cette histoire. Où le temps fonctionne différemment. Le fait que le temps avance et qu'il y a quelque chose de beau, mais aussi très dur en ça, ça fonctionne parce qu'on peut pas, revenir en arrière. Un peu comme Brokeback Mountain pour moi aussi fonctionne. Ça saute dans le temps, mais on ne va jamais en arrière. C'est toujours, on saute et c'est parfois c'est 5 ans en plus, parfois 10, parfois juste une année, mais il y a un mouvement en avant. Et ça devient très dur, au fait. Dès le début, on avait l'idée d'écrire ensemble quelque chose, pas nécessairement au début cette histoire, mais Charlotte, elle avait lu le livre et elle aussi pensait. C'était un film pour moi, mais elle voulait aussi.
Dans l'adaptation, vous avez fait une adaptation chacun de votre côté ou vous avez travaillé ensemble?
Ensemble, oui. En fait, j'avais écrit une première version et elle pensait que ça pouvait être beaucoup mieux.
J'étais pas d'accord.
Je pense que vous avez été vos points de divergence. On a le droit de savoir.
Oui, et justement, une amitié entre hommes, d'abord, c'est un sujet qui n'est pas très souvent évoqué. L'amitié des hommes au cinéma, c'est assez rare. C'est une certaine...
Comme, tendre comme ça.
Tendre comme ça, et avec plein de pudeur et une très grande sensibilité.
Oui.
Pour une femme, justement, comment vous l'avez appréhendé, ça, sur l'écriture?
Quand j'ai lu sa première version à Félix, je sentais juste que je ne retrouvais pas, en fait, le cœur du livre. Et j'avais beaucoup aimé ce cœur qui bat dans le livre. Et j'étais convaincue que si on fait un film, si on respecte l'histoire, ben, il y a ce cœur dedans, il y a ce sentiment. Une amitié comme ça entre hommes, c'est un peu différent qu'entre femmes. On se raconte d'autres choses, on communique autre chose. Oui,
bon, c'était déjà l'écriture.
C'est vrai, mais je pense que je connais assez bien les hommes. Non, mais ça m'a...
Elle a grandi avec trois frères, elle a eu un groupe de théâtre avec cinq hommes.
Oui. Et oui, il y avait toujours plus de garçons quand j'étais petit et quand je grandis, et observant tout ça autour de moi, oui, ça m'a toujours... j'ai vu ça, quoi. Et donc, c'était pas très loin de mon propre monde. C'était pas difficile de m'imaginer les choses entre eux. Et je trouvais ça quand même aussi original dans l'écriture déjà. Donc, moi, j'avais beaucoup envie de commencer l'histoire avec ces deux garçons entre eux et de partir de vraiment le crush qu'ils ont entre eux, quoi. Parce que moi je reconnais ça quand même, tu pars en voyage avec tes parents et voilà, tu es quelque part, tu connais pas encore, mais tu rencontres quelqu'un et voilà, tu es parti pour toute la semaine ou deux semaines ou trois semaines et le monde est dicté par cette amitié, quoi. Et ce qui est beau dans cette histoire, que ça continue, c'est assez épique. Puis les femmes dans l'histoire sont importantes. On voulait leur donner leur valeur, mais en même temps, c'est pas vraiment le sujet principal, mais bon, on a quand même bien travaillé là-dessus aussi. Puis la relation avec l'environnement, la nature. C'est quoi la nature? Bruno, il ne fait pas de différence entre soi-même et la nature, mais Pietro et ses amis, si. Parce que ben, nous aussi, on a une distance à ce qui est la nature. On vit en ville, puis on va à la nature. Aussi le vieux monde, parce que j'ai grandi à la campagne, le vieux monde qu'il y a là-bas. Avec les vieux, ben maintenant, tout ça change. Hein. Mais je viens encore des années 90, et les copains de mon père, qui avait des chevaux, qu'il aimait bien, ben, il connaissait beaucoup de fermiers, disons. C'était des gens du vieux style, qui vivaient avec leurs animaux d'une certaine façon. Je reconnais ça dans l'histoire, aussi que c'est devenu de plus en plus difficile. On a perdu quelque chose là, mais bien sûr, c'est pas tout triste, hein. C'est normal aussi que les choses évoluent, mais comment est-ce qu'on peut traduire le nouveau monde comment est-ce qu'on peut retrouver une mode de vivre ensemble avec la nature ou les animaux, avec les règles d'aujourd'hui, les choses sont devenues plus strictes, plus hygiéniques, plus tout ça. Mais ça peut, si ça veut dire plus, plus distant, ça ne marche pas, parce qu'avec les animaux et la nature, les arbres, les choses qui croissent, les fruits, tout ça dans la nature, on ne peut pas avoir de distance, en fait. Il faut être avec. Donc, je trouvais tout ça très, très beau dans l'histoire.
Vous avez filmé, en filmant les Alpes, vous avez été ébloui.
C'est quoi?
Ébloui. C'était magnifique. Hein.
Ok.
C'était magnifique. Oui. C'est une région que vous connaissiez ou que vous avez découverte?
On a découvert.
Oui. On ne connaissait pas vraiment, juste en faisant du ski, disons.
Émerveillé.
On s'est... oui, on s'est...
Il est devenu une gazelle de la montagne. On l'appelait comme ça durant le shoot parce que lui... « Ah, je me sens bien entre 3000 et 4000 mètres. Ouais, j'y vais, quoi, tout le monde. » Lui, il allait vraiment... Il était fort dans les montagnes.
Disons que le développement du scénario et la découverte des lieux et la recherche des plans de tournage, tout est devenu ensemble parce qu'on devait apprendre comment faire un film là-bas en écrivant le scénario. Donc, là où l'écrivain il habite et l'histoire se déroule. Et Paolo Cognetti nous a montré tous les endroits qu'il lui avait inspirés. Et donc très vite, l'année d'après, quand on avait la première version, deuxième version du scénario, on est allé déjà chercher des lieux de tournage pour tourner l'été d'après, parce que les étés sont très courts en montagne. Et quand il y a de la neige, on ne peut pas y arriver. Donc on devait travailler une année en avance. Et comme ça, on peut continuer à écrire et ça nous aidait à savoir où on allait tourner. Découvrir comment filmer une montagne, on a découvert que c'était dur, mais pas impossible aussi, de vraiment aller sur un glacier avec une équipe, de vraiment construire la maison sur 2200 mètres. Dans le livre, il y a quelque chose de très beau. C'est que chacun qui aime aller dans la montagne a sa propre altitude à lui. Quelque chose qui te ressemble.
Le caractère, ouais.
Et le caractère et où tu te sens le mieux. Il y a des gens qui adorent être sur la hauteur des villages, entre 1000 et 1500 mètres. Il y a des gens qui adorent être au-dessus, où il y a les alpages, il y a des gens qui se sentent bien au sommet. Et donc, ces différentes altitudes aussi, ça nous a inspiré beaucoup pour trouver des moyens pour aussi les faire sentir différemment dans le film. Quand on monte, quand on est sur une certaine altitude.
Dans vos films précédents, il y a souvent deux personnages clés, et avec des contrastes de personnalités très importants, et souvent aussi avec l'introspection, parce que de toute façon, tout ce film-là, il y a aussi la question existentielle, peu importe le chemin, le but, c'est le chemin qui est important.
Ouais.
Donc il y a plein de liens par rapport à la construction des personnages, les conflits entre père et fils, il y a énormément de choses. Souvent, vous utilisez le langage métaphorique. Je veux dire, la construction de cette maison, c'est aussi la construction des individus. Ça a été ciselé lors de l'écriture, à vous deux, tous ces passages-là, où ils étaient déjà bien écrits dans les livres.
On a été très fidèles au livre. Et la construction de la maison, c'est plein de choses. C'est l'amitié aussi qui se reforme, qui se construit pendant qu'ils sont en train de le faire.
Il y a des phases dans l'histoire. Il y avait des moments très clés, très clairs dans le livre, mais il y avait aussi des moments qui manquaient. Et là, donc, pour être conséquent dans le film, pour vraiment prendre cette histoire ensemble comme ça, c'était quand même un grand challenge aussi. Et puis, il y avait des trous. Et parce que des choses se racontent différemment dans un livre, et voilà, on devait être beaucoup plus concret, oui, visuellement, oui, beaucoup plus dans le concret dans un film. Donc, oui, on a quand même travaillé bien, bien sur le personnage de Pietro, par exemple.
C'était le plus dur parce que...
C'était le plus dur.
Il raconte l'histoire.
C'est lui qui raconte l'histoire dans le livre. Donc, tu es dans sa tête. Il est très... quand tu es fermé comme personne. Mais il a beaucoup de pensées très belles, il est un peu poétique, il est rêveur, il ne sait pas quoi faire, il essaye des choses. Mais là, pour le montrer dans le concret, mais qu'est-ce qu'il fait alors? Et comment est-ce qu'il communique là? Ça, c'était vraiment c'était vraiment quelque chose. Là, on a vraiment... pour être à raccord avec tout le cœur du livre, disons, ou tout ce cœur... Oui, on a vraiment travaillé là-dessus et l'écrivain nous a aussi bien soutenus. En toute liberté, il nous a toujours laissé libre, mais il a été vraiment très important aussi pour l'authenticité.
Faire un film, c'est vraiment c'est partir en voyage, c'est une découverte, c'est, toutes les étapes sont importantes pour arriver à la fin dans notre façon de faire du cinéma, donc pas tout est programmé à l'avance. Et on apprend dans chaque phase ce qui nous plaît, ce qui peut être beau, qu'on n'avait peut-être pas en tête avant, et donc ça évolue aussi. Ce qui était le plus important dans ce film qui devait fonctionner, c'est l'amitié entre ces deux, c'est d'avoir, c'est presque qu'il y a un amour, qu'on sent une affection, mais c'est quoi, comment ça se fait? Et surtout avec les jeunes, avec les gamins, qu'on a découvert que c'était surtout dans le physique, dans le rapport physique entre eux, que c'était très beau. Que...
L'âme sauvage, oui.
Et que sur papier, notre Pietro était un peu plus citoyen et un peu plus réservé, intellectuel. Et il avait peut-être un peu peur de faire des choses. Et puis on a rencontré ce gamin qui, en fait, qui a beaucoup de choses, qui est très intelligent, très éloquent, et très vite, très, il y a tout, très rationnel, il voit tout. C'est vraiment, après quand on les a mis ensemble, c'était parfait avec notre Bruno qui est vraiment un garçon d'un alpage, qui a du mal à s'exprimer, à parler, il arrive, bon, ça sort presque pas. Oui. Mais il est très en touche avec son, ouais, avec qui il est. Il y a pas de, il peut pas mentir, disons. Il est très.
C'est pour ça marche parce qu'ils sont taiseux. Donc dès qu'ils parlent, ils ont des choses à dire très importantes et les dialogues on les sent très forts parce que sinon on sent qu'ils parlent pas.
Ouais.
Et c'est vrai. Mais notre petit Pietro, on a dû le taire. Parce qu'il était vraiment très bavard, en fait. On a dû le taire, mais il a cette âme sauvage, comme l'autre. Donc, quand ils courent ensemble, il y a une explosion d'énergie. Parce que si on mettait avec cette âme, ben, c'est Bruno qui était sauvage, un garçon plus citoyen, un peu ben, comme ça, c'était... Ben, qu'est-ce qu'ils partagent, alors? Donc, il fallait quelque chose qui s'exprime sans mots. Et on l'a vu quand on a dit bah, « courez bah, !»
C'est là qu'on a compris, ok, on avait peut-être un garçon moins sauvage, mais en fait, c'est ça qui marche.
Qui se retient, ouais. Il se retient, mais en fait, il y a quelque chose qui brûle, là.
Vous faisiez pas trop froid d'aller se baigner dans l'eau, là ?
Un peu,
oui, il faisait
froid.
C'était froid. Oui, c'était froid.
C'était des belles journées.
Mais là, avec les adultes, là, vraiment, on a cherché longtemps, mais en fait, ces deux acteurs se connaissaient, ils étaient amis, mais c'était pas clair, en fait, au début, on avait pensé, et aussi que les rôles étaient
inversés.
Ouais. Et donc là, on voyait pas trop, on savait pas, mais non. Et après 6 mois, mais vraiment, on a rencontré tant d'acteurs, des inconnus, ben, vraiment pour donner une chance à quelqu'un pas connu. Hein. Et voilà, on a eu une audition avec les rôles comme ça à la fin. Et mais c'était vraiment très, très beau. Là, on a dit OK.
Bah. On va laisser la parole à un fan de la première
minute. Oui.
Je voulais vous poser une question un peu plus technique avec votre directeur de la photographie, donc Robin Evans, qui vous suit depuis votre premier court-métrage, votre expérience au film de fin d'études. Vous avez décidé de choisir le ratio 1:33 pour filmer la hauteur de la montagne. Je voulais savoir, pour les scènes qui étaient en ville ou à l'intérieur, est-ce que ce n'était pas trop contraignant d'avoir ce ratio-là, d'avoir ce format ?
Contraignant.
Trop compliqué en fait de filmer non pas avec le cinémascope mais avec ce 1:33 pour les scènes de ville ou d'intérieur.
Et pour compléter sa question, moi je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que justement le fait de ne pas utiliser le scope, c'est pour obliger entre guillemets les spectateurs à être focus sur le personnage?
Parce qu'en général avec ce format, on est sur l'épaule du personnage le plus souvent, ou à côté de lui.
Alors que là on est dans l'intimité. Enfin bon, on peut essayer.
Oui, ben, c'est toutes ces choses-là. C'est bien aussi que pour filmer la montagne, parce que la montagne est verticale. Et donc, quand on filme en montagne, on scope, on voit le sommet et le reste, c'est moins important, c'est moins excitant. Et si on le filme comme ça, on le suggère. Et j'avais l'impression, quand on faisait des tests, que effectivement, en tant que spectateur, qu'on se, qu'il y avait un mouvement en avant et pas se faire ça pour faire venir les images vers toi. Et je trouvais ça très spécial comme énergie. Et c'est vrai que pour les portraits, c'est un format fantastique. Tu fais ça, et tu as une super, super, super beau, belle image. On a aussi filmé avec des caméras vraiment très sophistiquées, nouvelles caméras, grands sensors, au fait avec un cadre presque pareil. Donc on utilise énormément de la surface du sensor. Et ça veut dire qu'on a énormément de...
Et même pour les drones, parce que j'ai pu entendre, Ruben Evans a conseillé de filmer des drones pour les plans, notamment en travelling, quand
oui.
vous suivez Pietro dans la
c'est
montagne.
Une autre caméra qui est dessus, ouais. C'est
oui. Pas... Elle n'est pas
d'accord.
À ouais. la hauteur de la vraie caméra.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Oui, on a essayé de faire sembler que c'était la même.
Non, non, c'est pas tout. Enfin, il faut un drone comme ça, si tu peux, si tu veux monter une caméra.
Ça s'appelle un hélicoptère, c'est à la fin.
Ouais, ça en a fait.
Parce que la vraie réussite de ces plans, c'est que l'image est très stable. Elle arrive vraiment à bien suivre ouais. sans qu'il y ait de tremblement. Et c'est vrai que c'est assez.
Mais donc, on peut utiliser plein de caméras sans qu'on le voit. Si tu ferais un plan champ contre champ avec différentes caméras, ça se verrait. Mais bon. Quoi d'autre est-ce que je voulais dire sur le quartier?
Moi, je voulais ajouter que Ruben, il aimait bien le 4-3 parce qu'il disait oui. Pour moi, c'est chouette que les personnages sont un peu coincés. Là-dedans.
Parce qu'on a ressenti.
Oui, j'aime bien les mettre un peu. Ils ne peuvent pas sortir, oui, mais. Parce que cette tension que ça donne, il y a cette tension dans les silences. Comment communiquer, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, comment est-ce que je me. Comment se comporte. En rapport avec la montagne qui est là, au-dessus de moi, toujours là. Je me sens un petit être humain comme ça. Oui, il aimait bien cette tension qu'il y a avec la nature autour et qu'on soit un peu coincé. Et il y a ce qui est à droite et ce qui est à gauche, un peu, c'est secret. On l'imagine.
Les cadrages aussi, il y a énormément de liberté. J'ai retrouvé beaucoup de liberté. Et c'était beaucoup inspiré par la cinématographie de Ida et Cold War. Certainement, tu donnes beaucoup plus d'espace en haut et ça fonctionne encore beaucoup dans l'image. Tandis qu'avec un scope, ça deviendrait artistique sans raison.
Juste le problème, c'est que si vous avez le scope, le spectateur devient admiratif du paysage, il se perd. Alors qu'en fait, avec ce format-là, on est vraiment concentré sur leur histoire, l'intimité des personnages.
Ouais.
Il n'y a pas de déperdition, vous voyez, d'éléments parasitaires.
Tu sais que Ruben a travaillé sur le découpage de Alabama Monroe, enfin, The Breakdown.
Oui, c'est
ça. Et je voulais savoir si est-ce que avec ce film aussi, il a travaillé au découpage, comme vous disiez.
Mais on fait toujours tout ensemble.
Hein. Ah oui.
Ok.
Ouais. Mais c'est un travail normal avec un chef-op, je dirais. Peut-être qu'il y a des réalisateurs qui décident tout, et puis quelqu'un doit le faire, mais c'est vraiment avec lui, on a toujours développé tout le style ensemble.
Comme avec votre mentor, Nico Lenen, qui vous suit aussi depuis votre premier long métrage.
Oui,
c'est une collaboration qui dure depuis vraiment maintenant.
Et donc avec Ruben, il fait partie des filmmakers. On le fait ensemble.
Parce que le montage est capital dans votre film, ce qui détermine justement ce déroulé dont on parlait au début.
Ouais.
Et il est fait avec beaucoup de précision et beaucoup de soin. Donc Nico Lionel, vous travaillez avec lui, enfin je veux dire, il n'est pas le seul à décider, ou il est le seul à décider
dans quel sens?
Dans le sens où c'est lui qui choisit l'ordre dans lequel il va mettre, ou c'est un travail collectif.
Oui, c'est lui collectif.
C'est la petite main qui participe, mais...
Bah, il est d'une grande main, une grande main.
Oui, deux grandes mains.
C'est une façon de parler.
Non,
mais c'est un...
Il est super important.
Et deux films, j'ai essayé de travailler sans lui. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que la vie...
C'était pas possible.
C'est pas possible. Et à la fin, il est toujours venu. Donc, mon cinéma et lui, c'est dur sans... Enfin,
oui,
c'est
oui.
C'est essentiel. En même temps, c'est pas lui qui décide. C'est vraiment un travail très collectif. Mais il a un coup incroyable. Il est assez sévère aussi.
Oui.
Et ouais, parfois on se lutte aussi. Hein. Mais c'est aussi c'est très gai, c'est ça la collaboration.
On sait que le choix de la musique est important dans vos films. Et je voulais savoir justement comment vous aviez décidé de la musique pour ce film-là.
Nico est aussi très très important dans ça.
Mais là, on avait déjà.
On avait une idée, mais bon, il était très enthousiaste quand je lui en avais parlé.
C'est vrai, il a influencé. Donc, oui.
En plus, l'histoire est plus compliquée. Dans le sens où on avait choisi cette personne sur la base d'un disque qu'il avait fait, qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé et beaucoup écouté pendant qu'on écrivait. On lui avait approché, il avait dit qu'il voulait faire le score. Enfin, c'est ça la question, tu veux faire la musique
s'appelle
originale.
Daniel Norgren, un Suédois.
Il voulait le faire, après il s'est retiré, c'était trop compliqué, il est très... En fait, il fait que ses propres projets, il a sa propre, label.
What? Oui, c'est
label, donc
label.
Il gère tout.
Label.
Il n'a pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, pour le dire franc ou clair. Mais on est revenu vers lui à un certain moment parce qu'on avait trouvé personne d'autre. on a écouté énormément d'autres choses, on voulait partir dans une autre direction parce que. Quelque chose pareil que lui, pour nous, on avait toujours l'impression que c'était pas.
C'était lui ou c'était pas lui. Sinon, c'était un peu plus classique, peut-être, ou un peu autre style.
Et ça fonctionnait pas, et donc, certainement, on s'est réalisé qu'on pourrait le faire avec ces morceaux, des morceaux existants. Et c'est aussi avec Nico qu'on a découvert ça, parce qu'on était déjà en train de monter. On n'avait pas encore tout filmé, on devait encore filmer la fin en hiver. Mais Nico avait fait une version avec 10 morceaux de Daniel placés chronologiquement comme l'album sur le film. On avait compris que ça fonctionnait.
Oui, on a compris que ça fonctionnait.
Et donc là, on est revenu, retourné vers Daniel. On lui a demandé si on pouvait faire ça. Il a accepté. Et. Il a quand même aussi encore commencé à envoyer des pièces qu'il n'avait pas encore utilisées. Et ça nous a aidé.
Ouais, c'était un Bruno suédois. Mmh. Il est très avec la nature, très avec sa famille, dans les bois, plus que Bruno avec sa famille. Mais dans les bois, et voilà, il ne sort que pour quand ça vaut vraiment la peine, mais sinon il reste là.
C'est la nature qui l'inspire.
Oui, oui.
Absolument.
Il raconte comme ça, il va dans les bois où il reçoit les mélodies. Ouais. Elles viennent vers lui.
Il enregistre plein de choses, plein de sons qu'il utilise.
Oui. C'est analogue, tout ça, il fait tout ça lui-même. Oui. C'est vraiment un craftsman.
Le fait d'avoir constitué une famille, entre guillemets, avec des techniciens avec lesquels vous tournez depuis longtemps, de vous appuyer sur des livres, est-ce que c'est un confort? Est-ce que vous allez, entre guillemets, la question est dure, mais est-ce que vous allez vous mettre en danger, par exemple avec un casting international, en sortant peut-être des livres et avec un support d'un scénario original? Est-ce que ça vous tente ça, ou est-ce que les producteurs vont vous orienter peut-être vers un casting international une fois? que là, vous avez choisi.
Il y a beaucoup de questions là. Moi, je décide en tout cas ce que je fais. Donc, parfois, on m'envoie des choses, mais ça ne veut rien dire. Et j'ai beaucoup envie d'écrire quelque chose d'original, en fait. Ou de ne vraiment, peut-être pas complètement original, dans le sens où il y a des. Comme Belgica, par exemple, c'est basé sur des histoires que j'ai racontées moi-même, des mémoires que moi j'avais. Donc, c'est semi. semi-biographique, oui. Mais c'est un mélange de tout, donc c'est original. Donc je pense, j'ai envie de faire ça, parce que j'aime beaucoup les adaptations, parce qu'effectivement, il y a, tu sais de quoi tu parles, mais oui, peut-être c'est un peu safe, disons, et ça fait très très peur de commencer à quelque chose d'original, mais quand tu arrives, ça donne énormément de... Ouais. Bonheur, satisfaction. Oui. Donc, oui, c'est ça l'idée.
Une dernière question, si vous le souhaitez.
Oh, ben alors, là, ouais. C'est tout à fait bateau. ça, oui,
c'est quoi
c'est bateau. Ben, quel effet ça vous a fait d'avoir un prix à Cannes, quoi. Alors que c'est pas la première fois que vous veniez, et puis là, le prix du jeu. Tous les deux ensemble.
Bah, c'était un the cherry on the cake, hein, comme on dit.
La cerise sur le gâteau.
Non, c'est les prix, c'est con, et en même temps, c'est parce que c'est le jury, c'est quelques personnes, mais voilà, ça fait que le film sort entre tous les autres, beaucoup de super films à Cannes, et c'est, ça nous a touché énormément, parce qu'on, ouais, qu'on a commencé avec ce film, on a eu l'impression, même, on a eu quelques moments assez durs dans le processus, pas entre nous, mais avec les éléments, avec des acteurs, avec des financements, mais on a toujours senti qu'on avait quelque chose d'important et spécial, et voilà.
Donc
ça aide à le sortir à plus de
gens. Une très courte question, c'est que j'ai vu que durant le making-of d'Alabama Monroe, c'est Lucas Dante qui l'a réalisé, et vous retrouvez le même festival, tous les trois à gagner un prix. Je voulais savoir quelle sensation ça faisait de voir Lucas qui a travaillé sur le making-of d'un de vos films, et finalement, la même année que vous, il gagne un prix pour un film aussi. Je voulais savoir
quelle sensation ça faisait. On est super fiers. Pour lui, c'est incroyable. Je suis très fier d'être là avec lui, la génération entre lui et les frères Dardenne, disons.
c'est nous.
C'est lui. Voilà. C'est vrai, ça fait beaucoup de Belges.
Ah ouais. Non. Oui. Trop, oui. Trop de Belges.
Non, non.
Le festival de Cannes l'année prochaine, c'est à Bruxelles, vous le savez.
Mais il y a Cannes en Belgique.
Ah, et à Ostende.
Il y a un petit Cannes en Belgique avec un K.
Avec un K.
On ne le connaît pas.
C'est Bouly Lanners qui nous en avait parlé.
Ah oui. Il connaît des côtés de la Belgique qu'on ne connaît pas trop.
Enfin, si, c'est bon, on vous laisse. Super. Merci beaucoup.
Merci.
Merci énormément pour votre film. C'était un immense coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur. Je pense que c'est un peu de mon coup de cœur.
Ah, ça marche.